RCF. Monseigneur Pietro Parolin, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs.
Merci Éminence d'avoir accepté de répondre à nos questions à l'occasion des journées Saint-François de Sales. Le congrès des médias catholiques à Lourdes, ensemble on va traverser l'actualité de l'Église. Le pape François a répondu cette semaine à une interview de l'agence américaine Associated Press. Il répond sans détour aux questions délicates qui se posent à lui aujourd'hui, sur des sujets aussi sensibles que l'homosexualité, l'armement, sa santé, les critiques dont il est la cible. On s'approche du 10e anniversaire du pontificat. Comment va le pape François? Est-ce que sa santé lui permet de poursuivre sa mission de successeur de Pierre?
Ah, certainement. Le pape a récupéré complètement sa santé. Complètement, ce n'est pas complètement, mais il a récupéré bien sa santé, non, qui, surtout le problème du genou qui lui empêchait de marcher. Et je pense, je le vois bien. Et il peut maintenant marcher, il peut faire beaucoup de choses qu'il ne pouvait pas faire. Et je pense que il peut, ce n'est pas à moi de le dire, mais il peut continuer tranquillement sa mission de successeur de Pierre.
Une mission de successeur de Pierre qui est bouleversée par bien des actualités. Comment est-ce qu'il a reçu, par exemple, les critiques du cardinal Müller? Avec le libre ton qui le caractérise, il décrit les attaques dont il est l'objet comme une éruption cutanée qui vous dérange un peu. Mais il dit aussi respecter la liberté de parole. Comment il reçoit ces critiques, le pape François?
Le pape François, je n'ai pas parlé avec lui de ces déclarations. Mais le pape François, je pense, je parle en général parce que quand je dis, je n'ai pas parlé directement de ce. Il me semble très tranquille. Il sait qu'il y a des gens qui ne partagent pas complètement sa vision, non, et que parfois il s'exprime à travers des critiques. Mais il accepte comme des choses qui sont. Il a dit une fois que c'est important que ce soit des critiques constructives. Et je pense que c'est là le point de différence, que ces critiques soient toujours constructives et qu'elles servent à améliorer les services à l'Église, de l'Église au monde.
Donc il considère les critiques formulées par exemple par le cardinal Müller, il les considère comme constructives?
Ah, je n'ai pas lui demandé, je vous dis que je n'ai pas parlé. Je pense que le cardinal Müller avait cette intention, parce qu'on ne peut pas avoir autre intention que servir et construire l'Église, non? Et je pense. Mais sur le pape, je ne peux dire rien.
La mort de Benoît XVI, semble-t-il, libère la parole contre le pape François. Est-ce que la mort de Benoît XVI va influencer le pontificat du pape François?
Je ne pense pas, parce que le pape s'est senti toujours libre de gouverner l'Église comme il pensait devant Dieu de le faire. Il a parlé beaucoup, il parle beaucoup de discernement, non? Et je pense qu'il a fait avant avec la présence de Benoît XVI, il le fait maintenant sans la présence de Benoît XVI. Mais ce ne va pas conditionner son pontificat, pas du tout à mon avis.
Il a dit avoir perdu comme un père.
Oui, la relation entre les deux papes était très fraternelle. Et je pense, oui, que le pape François ressentit beaucoup la mort du pape Benoît. Et je vis en lui toujours une grande dévotion, on peut dire, envers lui. Et je pense que cette expression exprime bien quel était le lien et la relation entre les deux.
On continue cet entretien en évoquant peut-être la dimension diplomatique de la vie au Vatican. On le sait, vous êtes un fin diplomate, vous avez été en poste dans de nombreux pays à travers le monde et comme secrétaire d'État du Saint-Siège, vous représentez le pape lors de vos voyages à travers le monde. Je voudrais qu'on évoque le rôle que peut avoir le Vatican sur les crises dans le monde et en particulier dans le conflit russo-ukrainien. Est-ce que le pape François, qui a reçu cette semaine une délégation ukrainienne à Rome, va aller lui-même en Ukraine?
Bien, on a toujours parlé de ça, cette idée d'une visite du pape François à Kiev remonte au commencement, au début de la guerre, non? Mais jusqu'au moment, ce n'est pas présenté l'occasion pour la réaliser. Et je pense que le pape a toujours essayé de pouvoir faire les deux visites, alors, parce qu'il voudrait être un pont entre les deux pays, les deux nations, au moins pour pouvoir parler avec les autorités des deux pays. Alors, pour le moment, il n'y a pas, il me semble, des conditions pour aller à Kiev, mais je pense que la chose reste ouverte.
Il multiplie les appels à la paix, très régulièrement il appelle à la paix. Certains lui reprochent de ne pas suffisamment prendre position contre la Russie et finalement de ne pas soutenir suffisamment l'Ukraine.
Bien, je pense que le pape François se situe dans la position traditionnelle du Saint-Siège. Le Saint-Siège n'est pas là pour accuser quelqu'un ou prendre parti pour quelqu'un. Certainement, c'est une question de justice, non? Les principes sont là. Le pape a parlé d'agression. Alors le pape a dit, et quand on parle d'agression, ça signifie qu'il y a un agresseur et qu'il a un agressé. Alors c'est clair la position du pape. Au même temps, il a essayé d'être vraiment, d'offrir vraiment les bons offices du Saint-Siège pour essayer de terminer la guerre. Et c'est là la préoccupation du pape, terminer cette guerre tragique qui fait beaucoup de victimes et beaucoup de dégâts en Ukraine. Alors, si ça peut aider, c'est ce que veut le pape.
Monseigneur Pietro Parolin, merci d'être avec nous sur RCF. On continue notre entretien, Monseigneur, toujours sur le plan diplomatique. Le pape François a rencontré le cardinal Zen. Où en est-on avec l'Église chinoise? Pourquoi fallait-il absolument dialoguer avec la Chine?
Bien, il faut dialoguer parce que, comme l'a dit toujours le pape, pour assurer, disons, une vie normale à l'Église en Chine et pour essayer de garder les relations entre l'Église catholique universelle et l'Église en Chine. Alors, trouver les conditions afin que l'Église en Chine puisse vivre une vie normale. Et que les citoyens chinois peuvent être des bons catholiques, comme nous disons toujours, et des bons citoyens. Alors, pour être des bons catholiques, ils doivent forcément avoir des relations avec les Saint-Siège, parce que pour les catholiques, la communion avec les Saint-Pères est essentielle, est partie de leur foi. Et c'est ça qu'on a essayé de faire, c'est ça, pour assurer cette condition normale et cette relation entre l'Église en Chine et l'Église universelle.
Le cardinal Zen s'est exprimé sur ce sujet. Il a expliqué combien cette situation diplomatique mettait en difficulté les catholiques de l'Église souterraine en Chine lors de leur rencontre à l'occasion des obsèques de Benoît XVI. Est-ce que le pape et le cardinal Zen ont pu en parler?
Oui, je pense. Je vis seulement la déclaration donnée par le cardinal Zen qui dit que la rencontre était très cordiale et très fructueux. Je ne connais pas les contenus spécifiques de cette, mais je suis très content qu'il y ait eu cette rencontre et je pense que c'est toujours important de se parler, de s'expliquer. Sur la situation de l'Église en Chine, on peut avoir de différents points de vue. C'est normal parce que c'est une situation compliquée, ce n'est pas facile. Alors, on n'a pas une solution unique, chacun peut avoir. Mais je pense qu'à travers aussi les dialogues, on peut trouver la voie meilleure pour essayer d'aider l'Église en Chine.
Malgré tout, est-ce que ce sujet, comme d'autres, peut être révélateur d'une crise de la gouvernance de l'Église catholique?
Aujourd'hui, le monde est devenu plus difficile et l'Église respire aussi l'air du monde, non? Et je pense que c'est ça. Aujourd'hui, il y a, par exemple, les médias qui augmentent aussi cette difficulté, non? Par exemple, en prenant position pour certains contre autres et, disons, un peu promouvant une polémique et tout ça. Certainement. Et après, on a vraiment le fait que le christianisme s'est développé dans le catholicisme dans tout le monde. Alors, il y a tradition, il y a culture, il y a sensibilité différente. Mettre tous ensemble. Le pape dit souvent, non, nous devons être unis dans la diversité. On doit accepter que nous sommes différents, pas dans l'essentiel. Dans l'essentiel, on doit être tous unis dans la foi catholique. Mais nous sommes différents. Et la difficulté, c'est ça pour moi, de mettre ensemble toutes ces réalités. Et c'est un grand défi pour les gouvernements de l'Église. Avant, peut-être, l'Église était, l'unité était entendue un peu comme uniformité. Alors, il me semble que Pape François veut dire on doit être unis, mais chacun avec ses peculiarités. Et ça complique beaucoup les choses.
Oui, surtout qu'il y a des exemples où, je pense à l'Allemagne, qui, avec son synode, veut affirmer sa particularité, affirmer ses propres options sur le plan théologique en particulier et sur bien des sujets. Est-ce que la synodalité, pour parler de la gouvernance de l'Église, est-ce que c'est le bon moyen, si on veut une unité dans la diversité, en même temps en donnant la possibilité à des églises locales de s'exprimer, est-ce que c'est pas un risque de créer justement la division et de fragiliser cette unité?
Oui, il y a le danger de fragiliser cette unité. Mais nous avons un centre de l'unité et on parle toujours du centre, disons, invisible qui est Jésus-Christ et l'Esprit Saint, mais aussi un centre visible qui est le pape, qui est le successeur de Pierre. Alors, tout le mouvement doit être conduit toujours en communion avec le successeur de Pierre. Et ça, c'est la condition de l'unité. L'Église catholique s'est distinguée pour cette unité qui est faite autour de Pierre. Non? Et si on garde cette idée et cette conviction, alors je pense que aussi les différences ne peuvent fragiliser l'unité de l'Église.
Le pape François continue de voyager. Le prochain voyage, c'est la semaine prochaine en République démocratique du Congo. Le pape François a besoin de sentir comment vit l'Église aux quatre coins du monde?
Ah oui, oui. Mais ça a commencé avec Paul VI, non? C'est Paul VI qui a fait le premier voyage. Et c'est certainement ce mouvement, c'est l'expression de ce mouvement, non? Alors que, disons, de la périphérie, l'appelons comme ça, vient vers Rome et de Rome va vers la périphérie. Mais certainement, le fait d'aller visiter les églises permet au pape de se rendre compte personnellement des situations des peuples et des églises. Alors, c'est vraiment dans le discours que nous avons fait sur l'unité, c'est une manière très positive d'aider cette unité autour du successeur de Pierre.
Une toute dernière question, Éminence. On dit que le pape François viendra peut-être en France prochainement. Il pourrait venir à Marseille à l'occasion d'un grand rendez-vous pour la Méditerranée. Ce serait au mois d'octobre 2023. Le pape François va-t-il venir en France, Éminence?
Il vient en France, il vient à Marseille. Et Marseille, c'est la France. Alors, il vient en France. Mais le pape a toujours, il a fait cette choix, non? Depuis le début de son pontificat, d'aller visiter les pays les plus petits et les plus peut-être en difficulté. Alors, il a dit, j'irai dans d'autres pays, deuxième moment. Alors, on espère qu'on puisse, après cette visite à Marseille, dans le contexte de la Méditerranée, aussi venir en France.
Vous me confirmez qu'il vient bien à Marseille au mois d'octobre prochain?
J'ai chanté qu'il vienne à Marseille, mais je ne sais pas, ce n'est pas moi de confirmer ça. Si ça a été publié, c'est certain, mais il y a cette idée.
Merci beaucoup, Monseigneur Pietro Parolin, d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire d'État du Saint-Siège. Vous étiez à Lourdes à l'occasion des Journées Saint-François de Sales, le rendez-vous des médias catholiques en France. Merci infiniment d'avoir répondu aux questions d'RCF.
Merci à vous et un grand salut à tous les auditeurs des radios RCF.